Bonjour à tous, frères et sœurs en Christ. Nous avons une expression en français qui dit « Il est bien ou elle est bien comme son père ». Ce peut être un compliment, mais aussi un reproche. La différence entre les deux dépend de l'éducation que l'enfant a reçue. En matière d'éducation des enfants, l'un des versets clés sur lesquels nous nous sommes basés pendant des années est Proverbe 22 et le verset 6. Reportons-nous à ce passage, Proverbe 22 et le verset 6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Et quelle est la voie qu'il doit suivre? Cela veut-il dire que si nous enseignons fidèlement à nos enfants la voie divine, ils entreront automatiquement dans l'Église? Se feront baptiser, recevront le Saint-Esprit, seront convertis, croîtront fidèlement, spirituellement, en ne se détournant jamais de la bonne voie, de la vérité. Nos enfants suivent-ils automatiquement notre exemple? Nous avons 5 enfants. Nous leur avons donné à tous la même éducation. Ils sont tous adultes maintenant. 3 sont dans l'Église et 2 ne le sont pas. Nous sommes loin d'être les seuls parents convertis dans ce cas. En d'autres termes, ayant des enfants qui sont dans l'Église et d'autres qui ne le sont pas. Se pourrait-il que nous ayons mal compris, Proverbe 22, 6? À propos de ce verset, il est intéressant de noter ce qu'on peut lire dans un site en anglais, appelé BibleHub.com, sur lequel on peut trouver diverses traductions anglaises. Et on remarque notamment que dans la Young's Literal Translation, la traduction littérale de Young, ce verset est rendu comme suit, et je cite, « Instruit le jeune homme à propos de sa voie, ou en lui expliquant sa voie et ses conséquences, et quand il deviendra vieux, il ne s'en écartera pas. » Ce site propose également un commentaire du Pulpit Commentary, un commentaire pour les prédicateurs, à propos de ce proverbe. Instruit l'enfant selon la voie qu'il devrait suivre. Le mot traduit par instruit, l'hébreu shanak, signifie premièrement mettre quelque chose dans la bouche, sous-entendu pour qu'on y goûte et l'ingeste et le digère. En d'autres termes, cela veut dire nourrit moralement. Donne une formation élémentaire, équipe, dans le sens d'équiper, forme. Dans l'original hébreu, il est question littéralement d'éduquer l'enfant en fonction de sa voix. Intéressant, n'est-ce pas? Évidemment, sa voix peut vouloir dire deux choses, ou bien cela s'applique à son appel ultérieur, à sa situation future, ou bien il est question de son caractère, de sa manière innée à lui de faire les choses et de ses aptitudes. Il y a donc 2 possibilités. Il est plus logique de voir dans cette maxime une injonction à tenir compte dans l'éducation de l'enfant de son caractère, de sa nature, de ses facultés, de ses aptitudes, de son tempérament. Si, quand il est jeune, un enfant est ainsi éduqué, quand il sera vieux, il ne s'en écartera pas. Et ainsi, son éducation, en tenant compte de ses aptitudes, de ses particularités, de son comportement, et même de ses manies, portera des fruits pendant toute sa vie. Cela deviendra une seconde nature. Il fera cela instinctivement, et cela lui restera. Pour résumer la meilleure traduction de Proverbe 22, 6, on pourrait dire que cela veut dire « éduque l'enfant en tenant compte de ses tendances, de ses prédispositions, de ses habitudes, de ses manies, de son caractère, de sa personnalité. Explique-lui où mène sa voie et ce qu'il doit changer. Et quand il sera vieux, il continuera à se conformer à l'éducation qu'il a reçue. » C'est en effet là l'intention de ce verset. ce verset ne dit pas, comme on l'a souvent cru de par le passé, « Instruis l'enfant selon la voie divine, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Il n'est apparemment pas question ici uniquement de la voie divine, mais aussi de la voie que doit suivre l'enfant, laquelle est en grande partie basée sur son caractère et sa personnalité. Bon, ce proverbe est de Salomon. Son fils Roboam, nous dit la Bible, se détourna de l'Éternel au bout de quelques années. 2 Chroniques chapitre 11 verset 21 nous dit « Roboam aimait Maaca, fille d'Absalom, plus que toutes ses femmes et ses concubines, car il eut 18 femmes et 60 concubines, et il engendra 28 fils et 60 filles. » C'est dans 2 Chroniques 11 21, vous n'avez pas la peine de vous y reporter, je viens de le citer. Mais par contre, reportons-nous à 2 Chroniques chapitre 12 verset 20, 2 Chroniques chapitre 12 et le verset 20. 2 Chroniques, chapitre 12 et le verset 20. Parce que c'est là que les choses changent. 2 Chroniques 12, 20, « Lorsque Roboam se fut affermi dans son royaume et qu'il eut acquis de la force, il abandonna la loi de l'Éternel et tout Israël l'abandonna avec lui. » Bon, ce que nous pouvons conclure de la lecture de ces deux versets que je viens de citer, c'est que Salomon lui-même, bien qu'ayant écrit ce proverbe, déclarant « instruit le jeune à propos de sa voie, et même quand il deviendra vieux, il ne s'en écartera pas », n'a pas pu garantir que Roboam suive toujours le droit chemin une fois adulte. Comme nous, nous pouvons donner à nos enfants une bonne éducation, mais cela ne garantit pas qu'ils continueront dans la même voie une fois adulte. Nous savons que ce proverbe est inspiré, que c'est en fait Dieu qui nous dit cela. Mais nous constatons aussi que Roboam a pris ses propres décisions, il n'a pas nécessairement suivi les conseils de son père, si conseils il y a eu. Et nous ignorons dans quelle mesure Salomon s'est acquitté de ses responsabilités d'éducateur. Nous savons qu'il n'a guère brillé au niveau conjugal, je ne vous apprends rien. Il a eu 1000 femmes. A-t-il échoué aussi dans l'éducation de ses enfants? Nous l'ignorons. Mais le fait est que Roboam n'a pas suivi la bonne voie. Quand on étudie de près la vie des êtres humains, on s'aperçoit qu'un élément majeur détermine leur statut dans la vie. L'éducation qu'ils ont reçue. S'ils ont été bien éduqués, ils deviennent des citoyens décents et respectueux des lois, et dans certains cas, de bons chrétiens, je dis bien dans certains cas. Revenons à Proverbes chapitre 22 et verset 6. Et je voudrais utiliser simplement plusieurs versions françaises pour essayer de prouver mon point ici. Dans la Bible en français courant, voici ce qu'on peut lire pour Proverbes 22, 6. « Donne de bonnes habitudes à l'enfant dès l'entrée de sa vie, il les conservera jusque dans sa vieillesse. » Dans la Bible de Darby, « Élève le jeune garçon selon la règle de sa voie, même lorsqu'il vieillira, il ne s'en détournera point. » Dans la Bible de Jérusalem, « Forme le jeune homme au début de sa carrière. » Devenu vieux, il ne s'en détournera pas. Dans la version Martin, instruit le jeune enfant à l'entrée de sa voie. Lors même qu'il sera devenu vieux, il ne s'en retirera point. Dans la nouvelle Bible Second, initie le jeune homme à la voie qu'il doit suivre. Même quand il sera vieux, il ne s'en écartera pas. Dans la version Parole de vie, 2000, donne à un enfant de bonnes habitudes dès ses premières années. Il les gardera et gardera même dans sa vieillesse. Dans la seconde 21e siècle, éduque l'enfant d'après la voie qu'il doit suivre. Même quand il sera vieux, il ne s'en écartera pas. Et dans la version Tob, donne de bonnes habitudes au jeune homme en début de sa carrière. Même devenu vieux, il ne s'en départira pas. Il y a d'autres traductions, mais elles rejoignent essentiellement ce que nous venons de lire. Ce que nous pouvons d'ores et déjà tirer de ce verset, c'est que nous devons donner à nos enfants de bonnes habitudes dès le départ et les aider dans la voie qu'ils doivent suivre. Il n'est pas clair s'ils deviendront automatiquement convertis, mais nous pouvons d'ores et déjà en faire de bons et honnêtes citoyens. D'où l'importance de l'éducation. Un jour viendra où ils comprendront la vérité. Je dis bien « comprendront » et non pas « apprendront ». Il s'agit de deux choses différentes. On peut connaître la vérité sans toutefois la comprendre. Cela peut paraître bizarre, mais notre histoire dans l'Église l'a amplement montré. Nous avons des gens parmi nous qui connaissent la Bible, mais qui ne la comprennent pas. Il y a une grande différence entre les deux. Ils ont leurs petites idées sur ce que la Bible déclare, et ce n'est pas ce qu'elle veut dire. Il est possible d'avoir une connaissance intellectuelle de la Bible sans toutefois être convaincu par ce qu'elle déclare et sans réellement la comprendre. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendre. Une chose est certaine, Dieu veut que nous enseignions à nos enfants la bonne voie. Donc, aussi, par voie de conséquence, sa voie. C'est notre responsabilité de parents. Et Dieu veut que nous les aidions dans la voie dans laquelle ils doivent marcher. Mais il importe de consulter plusieurs autres versets pour être édifiés à ce sujet, car Proverbe 22:6 ne nous donne qu'un aspect et de lui-même il ne peut pas nous servir de seul verset à suivre. Et nous devons nous reporter à d'autres passages pour savoir quoi faire pour bien éduquer nos enfants. Par exemple, Dieu avait confiance en Abraham. Pourquoi ? Il savait qu'il s'acquitterait de ses responsabilités parentales. Comment le savons-nous ? Par Genèse 18. Genèse 18, verset 18. Genèse chapitre 18 et le verset 18. Voilà ce que Dieu déclara. Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante. Et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison, après lui, de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Deutéronome 4, verset 6. Deutéronome chapitre 4 et le verset 6. Vous les observerez, vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples, qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront « Cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. » Verset 9. « Seulement prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues, et qu'elles ne sortent de ton cœur, qu'elles ne sortent de ton cœur. Enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. » Il y a donc ici un risque, celui de l'oubli ou du rejet de cette voie. Une fois adultes, nous sommes tous individuellement responsables de nos décisions. Certains de nos enfants continuent dans la bonne voie et d'autres non. Nous avons tous le libre arbitre. Nous décidons ce que nous allons faire. Nous sommes responsables de nos décisions. Deutéronome 6, verset 6. Nous étions dans le Deutéronome, deux pages plus loin. Deutéronome chapitre 6 et le verset 6. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui, c'est Dieu qui parle, seront dans ton cœur. Regardez ça, dans ton cœur. Pas simplement dans la tête là, mais dans le cœur aussi. Premièrement, il faut que ces enseignements soient dans notre cœur, autrement dit que nous en soyons convaincus et que nous les approuvions à 100%. Et lorsque nous enseignons à nos enfants, il faut que nous-mêmes nous soyons convaincus de ce que nous leur enseignons. Sinon, c'est peine perdue. Tu les inculqueras, verset 7, à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Autrement dit, en toute occasion. Continuellement. Deutéronome, quelques pages plus loin, Deutéronome 11, verset 18. Deutéronome 11 et le verset 18. « Mettez dans votre cœur et dans votre âme ces paroles que je vous dis, autrement dit, intériorisez-les. Fondez votre vie sur elles, qu'elles soient la base de tout ce que vous faites. Vous les lirez comme un signe sur vos mains et elles seront comme des frontaux entre vos yeux. Il y a deux symboles ici, celui des mains qui symbolise ce que nous faisons et le fronteau entre nos yeux, nos pensées. C'est le symbole de nos pensées. Verset 19, vous les enseignerez à vos enfants et vous leur en parlerez quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Voilà ce que nous devons faire. Inculquer à nos enfants les préceptes de l'Éternel, ses statuts, ses commandements et ses lois. Notre devoir est donc de bien enseigner et l'une des clés essentielles dans ce domaine est de montrer le bon exemple. Nous avons vu que Salomon, Roboam, n'est pas resté dans l'Église, si je puis m'exprimer ainsi. Salomon n'était pas nécessairement le meilleur des pères, ni le meilleur exemple, et il est fort possible que sa sagesse ait été pour lui purement intellectuelle, même si, pour Dieu, ce qu'il disait allait bien plus loin que l'énoncé des sentences et des proverbes qu'il nous a laissés. Un point à méditer. Salomon était le plus sage des hommes au niveau humain, mais il n'est pas prouvé qu'il ait possédé le Saint-Esprit. Un point à méditer. Les deux manières d'inculquer les voies de l'Éternel sont premièrement par la parole et deuxièmement par l'exemple. Et la seconde méthode étant de loin la plus efficace. L'hypocrisie est mortelle, est très dévastatrice. Nous devons croire ce que nous enseignons à nos enfants. Salomon et Roboam étaient le résultat de l'éducation que leur avait donnée David, par ses propos, mais surtout par ses actions. Que lisons-nous dans 2 Samuel 3, 2 Samuel chapitre 3 et les versets 2 à 5. 2 Samuel verset 3, chapitre 3 verset 2, « Il naquit à David des fils à Hébron. Son premier fils fut Amnon d'Akinoam de Jisrael. Le second, Kileab d'Abigaël de Carmel, femme de Nabal. Le troisième, Absalom, fils de Maaca, fille de Talmaï, roi de Geshur. Le quatrième, Adonija, fils de Haggit. Le cinquième, Shephatia, fils d'Abital. Et le sixième, Jitam, d'Egla, femme de David. Ce sont là ceux qui naquirent à David à Hébron. David avait donc six femmes, Akinoam, Abigail, Maaca, Haggit, Abital et Egla, avant d'avoir Bathsheba, sa septième et dernière épouse. David avait donc six fils, de ces diverses femmes en plus d'un certain nombre de filles, probablement, à ce stade dans le récit. Pas une bonne situation, pas le meilleur des exemples. Et en fait, ce mariage polygame entraîne à une situation tragique, typique de ce qui se produit quand on s'écarte de la voie divine. Il en est question dans 2 Samuel 13, versets 1 à 29. Je ne m'y reporterai pas, faute de temps. La première des choses, donc, que je voudrais mentionner aujourd'hui, c'est que nous devons nous souvenir que les enfants sont une bénédiction de l'Éternel. Il faut commencer par cela. Les enfants sont une bénédiction de l'Éternel. Pour leur donner une bonne éducation, il faut déjà se souvenir de cela. Psaume 127, verset 3. Psaume 127 et le verset 3. Voici, les fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Et cela inclut aussi les jeunes filles, évidemment. Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Il ne sera pas confus quand ses fils parleront avec des ennemis à la porte. Pourquoi ne sera-t-il pas confus? Parce que ce sont des sages. Ses fils sont sages parce qu'il les a bien éduqués. Ta femme est comme une vigne féconde à l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. Tu verras les fils de tes fils, que la paix soit sur Israël. » Ça, c'est dans le psaume 128, les versets 3 à 4 et 6. Psaume 128, versets 3 à 4 et 6. Deuxièmement, ce dont nous devons nous souvenir dans l'éducation pour bien éduquer nos enfants, c'est, contrairement à ce que prétendent bien des psychologues modernes, les enfants ont besoin d'être corrigés. Corrigés, je dis bien corrigés. Je ne dis pas corrigés avec des bastins ou des objets durs, il ne s'agit pas de les blesser, mais Dieu dit clairement que nous devons corriger nos enfants quand ils s'égarent. Ce qu'ils ont, ils font plus ou moins régulièrement, en fonction de leur gène, de leur caractère et de leur personnalité. Proverbe chapitre 13, verset 24. Proverbe 13, 24. Nous allons nous reporter à plusieurs proverbes. Proverbe 24. Celui qui ménage sa verge est son fils, mais celui qui l'aime cherche à le corriger. Et pour cela, il faut passer du temps avec lui, je devrais dire. Il faut passer du temps avec lui. Si vous ne voyez jamais vos enfants, ou rarement, vous ne pouvez pas les éduquer. Il faut passer du temps avec vos enfants. Et je vais revenir sur cet aspect important de l'éducation des enfants. Proverbe 19 maintenant, Proverbe 19, quelques proverbes plus loin. Proverbe 19, verset 18. Proverbe 19 et verset 18. Châtie ton fils, car il y a encore de l'espérance. Mais ne désire point le faire mourir. Il est un fait que certains enfants semblent avoir des prédispositions au mal et d'autres au bien. Mais Dieu nous dit d'être patient et de ne pas nous emporter au point de souhaiter les démolir, comme le font un certain nombre de parents de nos jours. Vous pouvez tuer votre enfant par vos paroles. Soyez très prudents dans ce domaine. Ne les découragez pas à fond. Aidez-les, corrigez-les, mais toujours avec amour. La folie est attachée au cœur de l'enfant, la verge de la correction l'éloignera de lui, dit à nouveau la Bible dans Proverbe 22, verset 15. Dieu veut que nous corrigions nos enfants, que nous leur disions ce qui ne va pas, ce qui n'est pas juste dans ce qu'ils font. Proverbe 22, 15. La correction, évidemment, cela contredit la psychologie moderne dont on voit les fruits déprimants tout autour de nous, les fruits pourris. Proverbe 23 maintenant, Proverbe 23, verset 13, Proverbe chapitre 23 et le verset 13. N'épargne pas la correction à l'enfant. Si tu le frappes de la verge, il ne mourra point. À nouveau, la verge, c'est juste un petit bâton souple. Il ne s'agit pas d'un bâton, d'une poutre. Il ne s'agit pas de blesser nos enfants. Simplement, leur donner, vous savez, une verge, ce n'est pas quelque chose de très solide. Pas dans ce sens. Il ne s'agit pas d'un bâton dur. Si tu le frappes de la verge, il ne mourra point. En le frappant de la verge, tu délivres son âme du séjour des morts. Pourquoi ? Parce que tu l'éduques dans le bon sens et il va prendre des bonnes habitudes et il ne le regrettera pas quand il sera adulte. Troisième chose dont nous devons tenir compte dans l'éducation de nos enfants, c'est que nous devons suffisamment bien connaître nos enfants pour les aider. Je reviens sur ce que je disais il y a quelques instants. Il faut passer du temps avec eux. Il faut bien les connaître et... Quand vous passez du temps avec eux, vous dialoguez avec eux. Vous savez, aujourd'hui, la plupart des jeunes, ils sont toujours sur à leurs jeux vidéo ou alors sur leur téléphone et se tape sur le téléphone et il n'y a aucun dialogue. Vous devez passer du temps avec vos enfants. Il y a des moments où il faut dire, le téléphone, les jeux vidéo, allez, on laisse tomber pendant un bout de temps. Parlons les uns avec les autres. Il faut parler, il faut dialoguer les uns avec les autres. Et ne sous-estimez surtout pas l'importance des encouragements. C'est formidable ce que c'est qu'un encouragement peut faire. Proverbe 20, verset 11. Proverbe 20, verset 11. Maintenant, nous sommes toujours dans les Proverbes. Proverbe chapitre 20, verset 11. L'enfant laisse déjà voir par ses actions si sa conduite sera pure et droite. Et j'ai cet exemple dans ma propre famille. Je peux penser à l'un de mes enfants. Et déjà, quand il était jeune, il avait ce regard, vous saviez déjà. Et quand je vois la manière, bon, je parle de celui qui n'est pas dans l'Église. Mais la manière dont il a tourné, oh, il avait 10 ans, mais je voyais déjà dans ses yeux, dans la manière dont il me regardait, je disais, oh, tu laisses déjà voir par tes voix, par ton regard, si ta conduite sera pure et droite, et sa conduite n'est pas pure et droite. Oui, il est possible de savoir très vite si on prend le temps de les observer, si on prend le temps de les observer. Et on peut voir les orientations, les dispositions de ces bébés. Et quand on sait qui ils sont, quand on les connaît, on peut faire quelque chose. On peut les diriger, on peut les corriger. Mais si on passe pas de temps avec eux, si on ne les connaît pas, ça ne sert à rien. David aurait dû mieux connaître son fils Absalom et son fils Amnon. S'il avait passé suffisamment de temps avec eux et les avait bien formés, éduqués, Absalom non seulement n'aurait pas tué l'un de ses demi-frères, mais il n'aurait pas non plus cherché à tuer même son père, David, en lui faisant la guerre et en devenant un traître. Sans doute David était-il surmené, dépassé par les événements. Il n'avait probablement jamais imaginé les problèmes que causeraient certains de ses choix. A-t-on le temps de s'occuper de tous ses enfants quand on a 7 femmes et de nombreux enfants? Qu'on est un guerrier, un roi, un juge et un homme d'État? Ah, il avait les mains pleines. Quatrième chose que nous devons faire dans l'éducation de nos enfants, nous devons les surveiller. Et à nouveau, il faut passer du temps avec eux. Les surveiller, c'est passer du temps avec eux ou proche d'eux. Les surveiller. Ne pas les laisser seuls. Pas quand ils sont très jeunes. Proverbe 29, verset 15. Proverbe 29 et le verset 15. Et, frères et sœurs, je ne fais qu'effleurer le sujet aujourd'hui. Je vous donne quelques principes, mais c'est un grand sujet, n'est-ce pas, l'éducation des enfants. Mais j'espère que ce que je vous donne aujourd'hui est utile. Proverbe 29, 15. La verge et la correction donnent la sagesse. Il n'y a rien de mal à cela. À nouveau, il ne s'agit pas de blesser les enfants. Il faut toujours le faire avec amour et non pas en colère. Si vous êtes en colère, non, attendez. On ne corrige pas un enfant quand on est en colère. La verge et la correction donnent la sagesse. Ça va lui donner la sagesse. Mais l'enfant livré à lui-même fait honte à sa mère et puis à son père, finalement. Verset 17, « Châtie ton fils et il te donnera du repos et il procurera des délices à ton âme. » Sous-entendu, plus tard. Tu verras le fruit de cette éducation. Cinquièmement, nous vivons à une époque où nous sommes à la merci d'une jeunesse mal élevée et délinquante. Ésaïe disait déjà cela de son temps et sa remarque avait un double sens. C'est aussi une prophétie pour notre époque. Ésaïe 3, 12. Ésaïe chapitre 3 et le verset 12. Ésaïe chapitre 3 et le verset 12. Je pense que pour les vieux routiers, c'est un peu une révision de ce que je vous dis aujourd'hui. Mais il est bon de nous souvenir de ces choses. Ésaïe 3, 12, « Mon peuple a pour oppresseur des enfants, et des femmes dominent sur lui. » Oh que c'est vrai, avec tous ces mouvements féministes, ah, les femmes sont après les hommes aujourd'hui. Alors les hommes n'ont pas fait un très bon travail pendant des siècles, mais alors les femmes maintenant continuent et aggravent la situation. Plutôt qu'essayer de résoudre des problèmes, elles vont encore plus loin, souvent. Les femmes dominent sur lui, mon peuple, ceux qui te conduisent t'égarent. C'est Dieu qui dit cela. Ils corrompent la voie dans laquelle tu marches. Cela rejoint ce que Paul a dit dans 2 Timothée 3, chapitre 1 à 5, que vous connaissez bien, où il est écrit que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Quelle description de notre monde actuel, n'est-ce pas? Quelques conseils. Aidez vos enfants à vous connaître. Et à nouveau, vous passez du temps avec eux. Et reconnaissez vos faiblesses. Reconnaissez vos faiblesses. C'est un signe de maturité. Vous savez, souvent, les parents disent, oh, faut pas perdre la face. Oh, si. Parce que vos enfants n'aiment pas les hypocrites. Et quand vous faites quelque chose qui n'est pas juste, et admettez-le, je le fais devant mes enfants. Cela m'arrive encore assez souvent. Je dis, j'aurais dû faire autrement, ce n'était pas tellement futé. Et vous savez, c'est formidable comment les enfants ajustent leur attitude sur cela. S'ils voient que vous cherchez à faire ce qui est bien et que vous admettez vos faiblesses, oh, ils respectent cela. Ne croyez pas que parce que vous êtes adulte et que vous êtes parent, que vous avez toute l'autorité du monde et que vous n'avez de compte à rendre à personne. Non, ce n'est pas l'attitude à avoir. Deuxièmement, rappelez-vous qu'un enfant est une personne, un enfant de Dieu en puissance, et il a droit à un certain respect. À nouveau, nous avons des parents qui disent « Oh non, respectez les enfants, non mais où allez-vous avec ça ?» C'est dommage si vous pensez ainsi. Un enfant a droit à un certain respect. Ne le méprisez pas. Respectez-le. Respectez son espace vital. Si vous voyez qu'il y a des problèmes quand ils sont adolescents, bien sûr, faut surveiller de plus près, voir comment aider. Mais respectez leur espace vital. Ne soyez pas toujours sur leur dos. Troisièmement, dialoguez beaucoup avec vos enfants. Ayez si possible vos repas ensemble et au moins le repas du soir pour la plupart des pays occidentaux. Après le travail, tout le monde doit se retrouver ensemble à table. C'est ce que nous faisons dans notre famille, c'est ce que nous avons fait pendant des années. C'est une tradition et c'est très constructif. C'est là, le soir, quand on se retrouve à dîner ensemble, qu'on parle de sa journée, de ses joies et de ses peines, des choses qui ont bien été et des choses qui n'ont pas tellement bien été. Mais il y a un dialogue et nous échangeons des idées. Vous seriez surpris à quel point c'est positif d'avoir tout le monde ensemble à table. Et laissez tomber la télévision ou les autres distractions. Quand on mange, c'est le moment de rester ensemble et de parler les uns avec les autres. Passez du temps à observer vos enfants et passez du temps avec eux. Je reviens là-dessus. Souvenez-vous que votre exemple compte plus que n'importe quelle leçon de morale. Vous avez beau dire ce que vous voulez, mais si vous faites le contraire de ce que vous dites, c'est désastreux. Souvenez-vous de votre exemple. Corrigez-les, mais encouragez-les aussi. L'encouragement est très important. Quand ils échouent, empressez-vous de les encourager. Ne leur dites jamais que ce sont des bons à rien, qui n'arriveront jamais à rien dans la vie. Ne dites jamais ça à un enfant. Ça le détruit. Les principes, c'est bien, mais il faut surtout avoir de l'affection et de l'amour. Si vous dites « cela ne se fait pas », ayez une bonne explication biblique pour votre point de vue. Quand vos enfants vous demandent pourquoi, évitez de répondre « parce que je suis ton père ou que je suis ta mère et tu dois m'obéir ». Il y a certes un temps pour cela, mais évitez de trop utiliser cet argument. Je ne l'utiliserai que très rarement. Et ne jouez pas aux militaires. L'armée, l'Église n'est pas l'armée et la famille, ce n'est pas l'armée non plus. Il y a un temps pour la discipline, c'est vrai, mais l'Église n'est pas l'armée, la famille n'est pas l'armée. Bon, directement lié à l'éducation, on dénote la présence ou l'absence dans cette éducation d'un élément majeur, l'affection. Quelqu'un qui manque d'affection étant jeune s'en ressent toute sa vie. Et je peux parler avec expérience sans rentrer dans les détails. Plusieurs parmi vous avaient eu une très belle enfance, ce n'était pas le cas pour moi. J'ai eu une dure enfance, je n'étais pas dans l'église, je suis entré dans l'église plus tard. Et très peu d'affection, et vous savez, on ressent ce manque d'affection toute sa vie. Alors soyez certains que vous tournez la page et avec vos enfants, si vous avez manqué d'affection, allez dans une autre direction. Faites le contraire de ce que vous avez vécu. Des études effectuées sur des bébés délaissés par leur mère ont prouvé que souvent ces bébés privés d'affection, de chaleur humaine, meurent dans les premières semaines de leur vie. Nous avons des mamans qui manquent d'affection naturelle, comme disait Paul, qui manquent d'instinct maternel. Je vous propose plusieurs clés pour réussir l'éducation de vos enfants. À nouveau, si vous n'êtes pas parent ou s'il est trop tard pour inculquer à vos futurs élèves dans le ça sera pour inculquer à vos futurs élèves dans le monde à venir. Premièrement, pour réussir l'éducation de nos enfants et l'éducation qu'en tant qu'éducateurs dans le monde à venir, nous donnerons à ceux que nous servirons quand nous rééduquerons le monde, nous avons besoin de montrer de l'affection. De l'affection. C'est un élément clé primordial. Quand Christ fut baptisé, une voix se fit entendre des cieux, déclarant « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Que c'est beau. « En qui j'ai mis toute mon affection. » Voilà, ici, notre Père Céleste et son Fils et le Fils se révèlent à nous. Il y a beaucoup d'affection entre eux et nous devons faire la même chose. Ça, c'est dans Matthieu 3, 17, incidemment. Ce que Pierre a repris en disant « Il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Pierre répète ce point important dans 2 Pierre 1, 17. Je trouve que c'est très significatif, nous vivons dans un monde qui manque d'amour, qui manque d'affection. L'affection est le vecteur de l'amour. On prouve son amour par des gestes, par des paroles précises, une certaine douceur de voix, des caresses, une certaine attitude. L'affection doit être un ciment soudant les couples, mais aussi un ciment soudant les membres d'une même famille, soudant les parents aux enfants et vice-versa. Parlant du temps de la fin, Dieu, par la bouche du prophète Malachie, a annoncé la venue d'Élie. Nous ignorons à ce stade si nous devons attendre un individu ou si ce verset est symbolique d'une œuvre. Une chose est certaine, il y a dans ces versets l'expression d'un blâme et une exhortation à resserrer les liens familiaux. Le blâme, pas envers Élie, mais envers les êtres humains. Voici ce qui est écrit. Malachie chapitre 4 et le verset 5. Voici, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit, d'autres traductions ou de destruction totale. De peur que je ne vienne frapper le pays de destruction totale. Frères et sœurs, il est question ici d'affection. En tant qu'Église, nous avons une œuvre à accomplir en ce sens, mais aussi en tant que famille. Nos familles sont-elles des foyers d'affection? Comme nous venons de le voir, quand Christ a débuté son ministère, le Père a tenu à ce que nous sachions qu'il a pour son Fils beaucoup d'affection, toute son affection. exprimons-nous cela, nous, en substance, à nos enfants? Il y a des cultures dans lesquelles les épanchements affectueux et sentimentaux sont proscrits ou quasi inexistants, et c'est dommage, et parfois même désastreux, comme je le disais. Oh, il est bien de dire « je t'aime », mais si ce n'est pas accompagné de certains gestes affectueux, ces mots risquent d'être vides de sens. Il faut donc ajouter le geste à la parole. Paul a lui-même parlé de cette expression primordiale de l'amour. Il a écrit dans Romains 12, 10, « Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. » Plein d'affection les uns pour les autres. Romains 12, 10. En parlant de Tite, il a écrit dans 2 Corinthiens 7, 15, que ce dernier éprouvait pour les Corinthiens un redoublement d'affection. Un redoublement d'affection. Dans sa première épître aux Thessaloniciens, dans 1 Thessaloniciens 2, 8, Paul écrivit aux membres « Nous aurions voulu dans notre vive affection pour vous, à nouveau, notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore notre propre vie, tant vous nous étiez devenus chers. » Paul répète un peu plus loin dans 1 Thessaloniciens 5, 13, « Ayez pour eux, vos ministres, sous-entendu, beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. » Et Pierre a dit dans sa première épître, dans 1 Pierre 5,14, « Saluez-vous les uns les autres par un baiser d'affection. » Un baiser d'affection. Le moment est venu pour nous de redoubler d'affection. Le monde est de plus en plus dur et implacable. Mais nous devons redoubler d'affection. Deuxième point que je voudrais souligner à ce stade, pour bien réussir l'éducation de nos enfants, nous devons commencer par nous assurer que notre cœur est impliqué, engagé. Nous pouvons enseigner nos enfants tous les bons principes avec amour, mais aussi être totalement impliqués, convaincus, enthousiasmés par les pensées divines. Est-ce le cas ? Quand le cœur est impliqué, l'enfant s'attache à ses parents. Dans le cas contraire, il se résigne à faire ce qu'il doit faire pour avoir la paix. Mais il attend le moment béni où il pourra agir à sa guise et quitter le foyer familial, ne dépendant plus de l'autorité parentale. Je me souviens, quand j'étais jeune, on insistait beaucoup sur les bonnes manières, les principes. Bon, il n'y a rien de mal, dans la plupart des cas, à avoir certains principes, mais il y a évidemment des principes qui n'ont aucun sens, qui relèvent plutôt de l'hypocrisie et qui n'engagent pas le cœur. Troisième chose que je voudrais souligner, c'est que, en matière d'éducation des enfants, comme dans les autres domaines de la vie, nous récoltons dans une certaine mesure ce que nous avons semé. Galates 6, 7. Quand nous éduquons nos enfants, nous semons la justice, l'intégrité. Galates 6, 7. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Si nous éduquons mal nos enfants, que nous ne passons pas assez de temps avec eux et ne leur exprimons pas notre affection, leur vie en sera profondément affectée. Et la nôtre aussi par voie de conséquence. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Un choix est à faire entre les deux. Si nous inculquons à nos enfants les vraies valeurs, tout ne partira pas en fumée. Ils feront leur propre choix. Nos deux enfants qui ne sont pas dans l'Église, ils ont toujours des principes qui sont restés. Bon, ils sont partis dans une autre direction, que nous n'approuvons pas. Mais c'est intéressant comment de temps à autre, ils ressortent des choses qui sont restées dans leur esprit. Des principes dont ils en ont oublié ou ils en nient certains pour le moment, mais il y a des choses qui sont restées. Et quelquefois, ils se trompent quand ils font des citations, etc. Mais les principes sont restés. Alors, nous espérons bien sûr que tôt ou tard, quand Dieu les appellera, il ne les a pas encore appelés, il ne les appelle pas encore, mais quand Dieu les appellera, tout cela ressortira. Alors, il y a une éducation que nous pouvons donner à nos enfants, il faut que nous fassions tout le nécessaire nous-mêmes, et disons-nous bien que lorsqu'ils seront adultes, ils auront leur propre choix à faire. Comme je le disais plus tôt dans l'Église, nous sommes nombreux à avoir enseigné nos enfants la bonne voie, et après, il y en a certains qui sont restés dans l'Église, et beaucoup d'autres qui ne sont plus dans l'Église, qui ont décidé de ne pas suivre cette voie. Mais ils auront leur chance un jour, mais il y en a beaucoup. Donc, voyez, ce n'est pas une garantie. Proverbe 22,6 n'est pas une garantie totale et ça ne parle pas juste de la voie divine. Proverbe 22,6 dit « Enseignez vos enfants en tenant compte de leur voie, de leurs inclinaisons. Et si vous faites bien votre travail, quand ils sont vieux, ils ne se détourneront pas. » Alors vous me direz « Personne n'est parfait dans ce sens. » Je ne suis pas parfait, nous nous rendons compte plus tard que l'éducation que nous avons donnée à nos enfants n'a pas été parfaite. Nous apprenons, comme votre premier enfant, vous faites toutes sortes de soucis. « Qu'est-ce que je dois faire dans telle ou telle situation ?» Et quand vous en arrivez au cinquième, vous dites « on a vu ça, on sait ce qu'il faut faire. On a la pratique, on ne se fait plus autant de soucis. » Ça ne veut pas dire pour ça qu'on ne se soucie pas d'eux, non, c'est pas ça que je veux dire. Mais ils font leur choix. Vous voyez, nous avons trois de nos enfants qui ont fait le bon choix, qui sont convertis, qui ont une bonne attitude, qui servent dans l'Église, et deux autres qui sont partis dans une autre direction. La même éducation, nous leur avons donné la même éducation. Donc, ne vous tapez pas trop sur la tête si vous avez des enfants qui ne sont pas dans l'Église. Mais assurons-nous que nous faisons notre part, que nous faisons le nécessaire. Et après, à nouveau, chaque être humain a sa possibilité de choisir. Nous choisissons, nous prenons des décisions, nous décidons de ce que nous voulons faire. Nous pouvons connaître la vérité, mais nous n'avons pas toujours envie de la suivre. Le temps me manque ici pour parler de 1 Samuel 2, 27 à 36, où il était question des fils d'Élie, du sacrificateur Élie. Ça, c'était un bon exemple. C'est un bon exemple de père qui n'avait pas fait son travail. Quand Dieu dit « D'où vient que tu honores tes fils plus que moi, afin de vous engraisser des prémices de toutes les offrandes d'Israël, mon peuple ?» Et lorsqu'il est écrit, alors ça, c'est dans 1 Samuel 2, 27 à 36, si vous voulez noter cela et puis vous y reporter plus tard. Mais 1 Samuel 2, 27 à 36, et après, Dieu dit dans 1 Samuel 2, versets 12 à 17, « Les fils d'Élie étaient des hommes pervers, ils ne connaissaient point l'Éternel. » Et au verset 17, ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel d'un très grand péché, parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Là, nous avons l'exemple d'un individu, d'un sacrificateur, d'un ministre de Dieu, si vous voulez, qui n'a pas fait son travail, qui n'a pas fait son travail d'éducateur. Bon, un autre point que je voudrais soulever, c'est que... La question suivante est de savoir par quoi commencer, par où commencer. Proverbe chapitre 1, verset 7. Dans le livre des Proverbes, il y a des perles de sagesse. Proverbe chapitre 1, verset 7. La crainte de l'Éternel, c'est par là qu'il faut commencer. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Écoute, mon fils, l'instruction de ton père. Nous nous adressons à nos jeunes maintenant, et nous, les adultes, nous pouvons en tirer de la graine aussi. Écoute, mon fils, l'instruction de ton père, et ne rejette pas l'enseignement de ta mère, car c'est une couronne de grâce pour ta tête et une parure pour ton cou. Mon fils, si les pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. S'ils disent, viens avec nous, dressons des embûches, versons du sang, tendons des pièges à celui qui se repose en vain sur son innocence. Engloutissons-les tous vifs, comme le séjour des morts, et tout entier, comme ceux qui descendent dans la fosse. Quelle mentalité, hein? Les délinquants. Voilà. Il s'agit ici, ça décrit des délinquants. Il y en a beaucoup de nos jours. Lisez le restant de ce passage, vous les jeunes. Lisez ce passage. C'est un devoir que je vous donne pour le message d'aujourd'hui. Lisez jusqu'au verset 33, et puis après, Proverbe 2, verset 1. « Mon fils, si tu reçois mes paroles et si tu gardes avec moi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, » oui, si tu appelles la sagesse et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, ce que nous devrions tous rechercher, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Et vous pouvez continuer avec le restant de ce chapitre aussi. Voilà des outils dont nous avons besoin pour éduquer nos enfants. Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal, est-il écrit dans Proverbe 13, 20. Proverbe 13, 20. Sommes-nous de ces sages qu'il fait bon imiter? Là, je parle aussi bien des jeunes, aux jeunes qu'aux adultes. Luc 8, 18 maintenant. Luc chapitre 8 et le verset 18. Luc 8, 18. À nouveau, je ne fais qu'effleurer le sujet aujourd'hui. Luc 8, 18. Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez. C'est fascinant ce qui est écrit ici. Prenez garde à la manière dont vous écoutez. Vous savez, souvent nous écoutons d'une oreille distraite. Dieu nous dit, prends garde à la manière dont tu écoutes. Car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, en autre manière, ce qu'il croit avoir. Celui qui se fait des illusions, celui qui pense avoir quelque chose et qui n'a rien aux yeux de Dieu. Il est aussi écrit dans les Proverbes ce qui suit. Cesse, mon fils, d'écouter l'instruction si c'est pour t'éloigner des paroles de la science. Ainsi, si tu écoutes, mais que tu as déjà décidé de faire autre chose, tu perds ton temps. C'est même pas la peine d'écouter, tu sais très bien que tu écoutes, oui, mais tu n'écoutes pas comme il faut. Fais attention à la manière dont tu écoutes. Les chrétiens sont appelés disciples, nous devons tous être dans notre vie du rang des étudiants de Jésus-Christ. Nous devons, comme l'a écrit l'apôtre Pierre, croître dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. 2 Pierre 3,18. Ça veut dire que nous devons régulièrement nous imbiber de la parole divine, de ses pensées. Comment nous savons comment Dieu pense? Comment est-ce que nous nous familiarisons avec Dieu? En lisant sa parole. Parce qu'il se révèle à nous, il révèle ses pensées, ses sentiments. Deutéronome 30, verset 15. Deutéronome 30 et le verset 15. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. À vous, les jeunes, de choisir. Mais je dirais aussi à nous, les adultes aussi, de choisir. Voilà ce qui a été mis devant nous, un choix. Notre objectif majeur dans la vie est-il de devenir comme notre Père Céleste? Souhaitons-nous qu'on puisse dire de nous positivement, il est bien comme son Père? En pensant à notre Père Céleste. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Matthieu 7, verset 13 à 14, le sermon sur la montagne. Tout compte faire autour de Christ, ceux qui cherchent la vraie connaissance la trouveront. Car comme l'a annoncé Ésaïe, la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Ésaïe 11, 9. Il est écrit « Instruis le jeune à propos de sa voie » ou en lui expliquant sa voie et ses conséquences. « Et même quand il deviendra vieux, il ne s'en écartera pas. » Mais la Bible ne s'arrête pas là. Dieu nous dit d'enseigner fidèlement sa voix à lui, sa voix, la voix divine à nos enfants. Car c'est cela qui compte finalement. Une fois adultes, ce sera à eux de choisir ce qu'ils veulent faire, mais nous devons faire notre part pour qu'ils aient tout ce qu'il faut pour réussir. Nous avons une grande responsabilité, nous les parents. Revenons à un passage clé que nous avons lu plus tôt et qui résume notre devoir de parents en matière d'éducation de nos enfants. Deutéronome 11 et le verset 18. Mettez dans votre cœur et dans votre âme ces paroles que je vous dis. Nous avons lu de ces paroles aujourd'hui, qu'elles soient dans notre cœur, il ne s'agit pas qu'elles soient intellectuellement dans notre tête, il faut qu'elles soient dans notre cœur et dans notre âme, que nous en vivions, que nous les pratiquions. Vous les lirez comme un signe sur vos mains, symbole de nos activités et de notre comportement, la main. Et elles seront comme des frontaux entre vos yeux. Entre vos yeux, le front étant le symbole de nos idées, de nos pensées, à nouveau. Vous les enseignerez à vos enfants et vous leur en parlerez quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Je vous souhaite à tous une bonne fin de sabbat, je vous souhaite bon courage et je vous dis au revoir et à bientôt.